d'un continent.
Éthiopie et éthiopianisme. Elikia Mbokolo. Qui a longtemps fait rêver les Africains et le reste du monde en dehors de l'Afrique, c'est bien le mot Éthiopie. L'Éthiopie en tant qu'État, royaume et empire, l'Éthiopie en tant que civilisation et l'Éthiopie confondue quelquefois avec la totalité du continent africain. On pense par exemple au fameux royaume du prêtre Jean qui a fait rêver tant d'Européens, missionnaires, aventuriers, conquérants de toutes sortes depuis le Moyen-Âge. On pense aussi à ces autres aventuriers très nombreux, alors eux marchands d'armes, commerçants d'esclaves, conquérants aussi, qui tout au long du XIXe siècle ont parcouru ce qu'on appelait aussi l'Abyssinie. Mais c'est surtout parmi les Africains de la diaspora d'abord, les Africains du Nouveau Monde en particulier, que l'Éthiopie a connu son prestige le plus grand et que l'éthiopianisme est devenu une sorte de mouvement, un ensemble de croyances, peut-être même une idéologie. Alors juste un exemple pour fixer la longueur du temps pendant lequel ce phénomène joue à plein. Nous sommes à New York en 1920, lorsque Marcus Garvey réunit la première convention des peuples noirs du monde et on entend cet hymne éthiopien universel. Nous vous devons cet hymne qu'on vient d'entendre, mais cette version n'est pas la version qui a été jouée en 1920, c'est une version beaucoup plus tardive.
C'est une version jouée en 1967 par une formation musicale qu'on appelle Nayabingi, composée par des artistes jamaïcains. C'est Ras Michael and the Sons of Negus qui joue cette version.
Alors vous êtes docteur en histoire et votre spécialité c'est de travailler justement sur cette diaspora ou ces diasporas africaines qui se sont répandues dans le monde, en particulier dans le monde atlantique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe et toutes les circulations physiques mais aussi culturelles qui se sont produites dans cet espace. Alors les rapports entre Éthiopie et éthiopianisme, c'est un peu compliqué, mais on est frappé par le fait que à partir du moment où la représentation de l'Éthiopie commence à jouer à fond, la plupart des gens qui en parlent se réfèrent à un texte ancien, un texte fondateur s'il en est, puisque c'est la Bible.
Effectivement, ce qu'on appelle éthiopianisme, en fait, est une matrice idéologique créée à partir de ce nom Éthiopie. Et il a d'abord été diffusé aux Amériques à travers la Bible, texte emmené par les missionnaires européens et rapidement réapproprié par les descendants d'Africains du temps où ils étaient esclaves, autant qu'après les abolitions.
Est-ce que dans la Bible, le mot Éthiopie est dedans, ou est-ce que c'est la traduction qui a traduit par Éthiopie des mots qui pouvaient être Éthiopie ou autre chose?
La version anglaise de 1611 de la Bible traduit par Éthiopie les termes hébreux comme Kush ou bien grec comme Éthiopia, et ce terme Éthiopie apparaît donc plus d'une quarantaine de fois dans la Bible.
Mais on sait dans quel contexte par exemple?
Oui, on le trouve dès la Genèse, l'Éthiopie fait partie des géographies du Jardin d'Éden. On le trouve également dans par exemple le Cantique des Cantiques, les livres prophétiques. Les Éthiopiens sont ceux qui ont la peau noire. Les Éthiopiens sont ceux qui sont sans reproche.
Il y a un psaume qu'on cite souvent, notamment dans les églises noires américaines, mais aussi sur le continent africain, qui est difficile à interpréter puisqu'il est fait référence à une Éthiopie qui lève les mains vers Dieu. Vous pouvez rappeler un peu ce
oui,
psaume?
Oui, c'est le psaume 68. suite, et tout particulièrement son verset 31 qui indique que des princes sortiront d'Égypte et que l'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu. Donc c'est un verset qui a été effectivement énormément cité dans la plupart des églises noires aux Amériques et qui attribue une fonction prophétique à l'Éthiopie et aux Éthiopiens. C'est-à-dire que c'est un verset qui donne aux Noirs qui s'identifient à l'Éthiopie une place spéciale dans le grand dessein divin.
Julia Bonacci, dans le contexte de l'esclavage, de l'après-esclavage, peut-être des formes de colonialisme ou de colonisation, notamment dans les Caraïbes, mais aussi sur le continent africain, est-ce que ce discours religieux n'est pas seulement que du religieux, ça sert aussi à des positionnements politiques ou sociaux?
Effectivement, c'est une des caractéristiques de l'éthiopianisme, de cette idéologie qui émerge finalement dans les lieux où il y a des politiques coloniales et raciales qui convergent et qui lèvent dans leur sillage des pratiques populaires de résistance qui aident à la formulation de discours politiques et qui permettent des innovations socioculturelles. On les retrouve donc sous différents formes, tant aux États-Unis que dans les Caraïbes, que en Afrique australe, à la charnière entre le 19e et le 20e siècle, notamment.
Alors justement, il y a cette grande géographie qui surprend un peu d'ailleurs. Est-ce qu'elle est plus anglophone que francophone, plus protestante que catholique?
Mais c'est une forme de ceinture éthiopienne qui se déploie sur ces trois pôles. Elle est probablement plus connue dans ces espaces anglophones. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a aucun impact dans les espaces francophones. On le voit peut-être un petit peu plus tardivement, au tournant des années 1920-1930, ce trope Éthiopie continue à être utilisé par la proposition faite à travers la négritude, par exemple.
Alors, si on prend cette géographie, où faut-il commencer? Plutôt aux États-Unis ou aux Caraïbes?
Je pense que justement, ce n'est pas tant un lieu de départ qu'une relation continue entre ces trois pôles qui est intéressante. Et on a des trajectoires de missionnaires, d'intellectuels, de travailleurs entre les pôles de cette ceinture éthiopienne qui montrent bien comment c'est toujours une interaction entre ces différents espaces.
Des gens passent par exemple de la Caraïbe vers les États-Unis, puis vers l'Afrique et reviennent aux États-Unis ou vers la Caraïbe. Est-ce qu'il y a des noms, des figures de personnalité?
On peut prendre un exemple de Robert Attlee Rogers, qui est un monsieur né au tournant des années 1890 à Anguilla, qui est une petite île de la Caraïbe, qui a été migrant aux États-Unis, à Newark, où il a fondé une église qui s'appelle l'Afro-Athlican Constructive Church. C'est une église qu'il a par la suite ouvert en 1924 à Kimberley, en Afrique du Sud, et l'année suivante, en 1925, en Jamaïque. Et c'est à proprement parler une église éthiopienne.
Alors, ces églises, donc on continue d'y développer une pratique religieuse, mais parallèlement, il y a aussi d'autres choses qui se passent, qui ne relève pas, encore une fois, de la religion.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'Éthiopie a une place symbolique et centrale dans le développement de cette église, qui cherchait donc non seulement à établir des rituels et une congrégation indépendante, noire, mais aussi à développer des réseaux de solidarité entre ses membres pour leur permettre de se soutenir les uns les autres dans des contextes économiques et sociaux difficiles.
Alors, si on vient un peu vers l'Afrique du Sud, qui est un pays qui aujourd'hui joue d'ailleurs un rôle très important dans la relance du panafricanisme et qui a toujours eu une histoire un peu à part, une colonisation à part, et on a vu que précisément à la fin du 19e, début 20e, l'Afrique du Sud est connue pour l'importance de ces églises éthiopiennes. Est-ce qu'elles ont servi de creuset, de lieu d'où sont parties des choses politiques? Ou est-ce que ce sont des gens qui sont cantonnés essentiellement dans le secteur religieux? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis de là pour aller ailleurs? Comment on peut analyser un tout petit peu ce mouvement qui avait beaucoup surpris les gens au tournant du 19e et du 20e siècle?
la grande vague hein, de l'établissement d'églises africaines indépendantes qui cherchaient tant à créer des congrégations différentes hein, de celles des églises établies que à développer des discours politiques dans lesquels l'intégrité et le respect des peuples africains étaient mis en avant. Cette grande vague d'églises indépendantes a donc effectivement été largement composée d'églises éthiopiennes ou parfois d'églises sionistes à divers endroits en Afrique du Sud. Et souvent d'ailleurs, ce sont des fondateurs d'églises, hein, des personnages charismatiques qui ont eu des relations avec des missionnaires noirs issus des Amériques.
Nous sommes ensemble pour parler de l'éthiopianisme. Alors c'est, on dirait, une religion, une idéologie, des mouvements. Est-ce qu'il y a des rapports avec l'Éthiopie historique de l'époque où ces mouvements se développent ? Est-ce qu'il ne se passerait pas d'ailleurs en Éthiopie des choses qui encourageraient ce dynamisme religieux ? Donc, deuxième moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e.
En effet, il y a un phénomène assez intéressant qui s'est produit. C'est-à-dire que ce mot Éthiopie était donc diffusé dans toutes les Amériques, ces congrégations religieuses en Afrique, aux États-Unis, dans les Caraïbes, etc., qui utilisaient ce terme et avaient créé tout un imaginaire autour de ce nom et de leur identification à ce nom. Et c'est donc un corpus qui s'est peu à peu transformé grâce aux relations établies entre l'Éthiopie et justement ces mondes noirs. Cette mythologie hein, éthiopienne s'est peu à peu incarnée dans les représentations de l'État éthiopien et dans les corps de ceux qui représentaient cet État, notamment les empereurs éthiopiens.
Alors, le 19e siècle en Éthiopie est un siècle passionnant parce que c'est très compliqué, il y a des guerres, il y a des conquêtes, il y a des victoires fabuleuses. Quelles sont les figures, donc justement ces représentants de l'Éthiopie qui ont le plus retenu l'attention des Éthiopiens de l'extérieur et pour quels actes qu'ils auraient posés ?
Alors, il y a plusieurs étapes hein, qui ont permis l'émergence de l'État-nation Éthiopie dans les mondes noirs. La première est effectivement la victoire d'Adwa. En mars 1896, les armées éthiopiennes, sous les ordres de l'empereur Ménélik et sous le commandement du Ras Makonnen, écrasent les armées italiennes dans le nord du pays. C'est la première défaite coloniale qui fait donc surgir l'Éthiopie sur la scène internationale de façon frappante.
Mais c'est un événement important. Parce qu'en 1896, l'Afrique est presque entièrement colonisée. Il ne reste guère que le Maroc, qui va l'être bientôt d'ailleurs, le Libéria, qui n'est pas vraiment indépendant, qui l'est formellement. Donc la victoire d'un souverain noir, en plus souverain d'Éthiopie, hein, descendant, disait-on, de Salomon et de la reine de Saba, c'est quelque chose qui était fait pour à la fois frapper les imaginations et galvaniser les peuples.
Effectivement, première victoire anticoloniale sur le continent et qui a été rapidement en fait renforcée par l'émergence et la visibilité du jeune souverain d'Éthiopie, le régent d'Éthiopie, Rastafari, régent depuis 1916, qui au début des années 20 commence à apparaître sur la scène internationale. C'est un jeune monarque, polyglotte et brillant. Il voyage en Europe, ses photos circulent. Pour pouvoir rentrer à la Société des Nations, il abolit l'esclavage en Éthiopie, hein, un processus qui prendra des années, mais qui symboliquement était essentiel pour les Amériques noires, issues elles-mêmes
de l'esclavage.
Tout à fait.
Et donc la Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU. Il faut penser que dans les années 20, il y a un État africain qui fait partie de la cour des grands, comme on dirait aujourd'hui.
Tout à fait. Et non seulement ça, mais suite au sacre de ce Rastafari en 1930, hein, lorsqu'il devient Haïlé Selassie, il y a des représentants du monde entier qui font le voyage jusqu'en Éthiopie à l'occasion du couronnement. Et donc, dans les Amériques, circule cette image frappante des représentants des monarchies anglaises et autres qui viennent s'agenouiller devant le jeune empereur éthiopien. C'est un renversement symbolique et très fort, qui a été, suivi hein, presque immédiatement, quelques années plus tard, par cette guerre italo-éthiopienne de 1935 à 1941, qui, encore une fois, place l'Éthiopie dans ses géographies politiques coloniales de l'époque.
Avec l'injustice, l'hypocrisie, la mauvaise foi de la Société des Nations en tant qu'institution et des grandes puissances qui laissent un pays membre de la Société des Nations attaquer un autre pays membre de la Société des Nations.
Tout à fait. Et donc cette guerre italo-éthiopienne a comme effet de cristalliser, en fait, les imaginaires devenus imaginaires politiques hein, liés à l'Éthiopie. Et c'est donc une période à partir de laquelle sont réinterprétés également ces événements précédents et qui lient de façon extrêmement intime l'Éthiopie, ses représentants, ses monarques et les peuples noirs du monde.
Alors, Haïlé Selassie a eu une fin de règne malheureuse, en ce sens que cette fin de règne a été ensanglantée par une révolution qui a changé beaucoup de choses, changé également l'image de l'Éthiopie. Est-ce que aujourd'hui on peut encore parler d'éthiopianisme et en quel sens?
Alors, une chose peut-être à souligner, c'est que durant tout le XXe siècle, avant la révolution éthiopienne, cet éthiopianisme a été nourri par les politiques panafricaines de l'Éthiopie, qui effectivement, après la révolution, se sont arrêtées. De nombreux chercheurs ont enterré avec les honneurs l'éthiopianisme, justement au milieu des années 70, mais il est fascinant de voir comment ces idéologies peuvent se perpétuer à travers le temps, et nous en voyons aujourd'hui des héritiers qui continue à mettre en mots ce corpus de l'éthiopianisme, qui continue à réciter des prières écrites dans les années 20, à composer des chants qui placent l'Éthiopie dans cette mythologie et dans cet imaginaire politique. Et les plus connus d'entre eux sont probablement les Rastafariens.
Alors on va terminer justement avec une trace de cette pérennité de l'éthiopianisme avec le fameux credo que nous connaissons grâce à vous. Je signale que c'est tiré d'une thèse de doctorat que vous avez soutenue sur le retour en Éthiopie.
Ô Dieu d'Éthiopie, divine majesté, que ton esprit règne en nos cœurs, guide-nous sur le chemin de la droiture. Enseigne-nous l'amour et la loyauté sur terre comme il en est au ciel. Dote-nous de la sagesse et de la compréhension pour faire ta volonté. Qu'avec ta bénédiction, ceux qui ont faim soient nourris, ceux qui sont nus soient vêtus, les malades soignés et les plus âgés entourés. Et dans les derniers jours, quand nos corps seront dans la terre, dans les profondeurs de la mer ou dans le ventre de la bête, donne à nos âmes une place dans ton royaume pour toujours et à jamais.
Giulia Bonacci, ce credo, qui l'a composé, quel en est le support?
Alors, c'est ce fameux révérend Asli Rogers, hein, créateur, fondateur de cette église éthiopienne au début des années 20. C'est un credo qui est donc à proprement parler une prière éthiopienne qui était récitée dans son église, et il n'aurait jamais pu penser à la postérité qu'aurait eu ce credo qui, jusqu'à aujourd'hui, est récité par toutes les communautés rasta, tant dans la Caraïbe qu'internationalement, et qui forme, disons, une des plus belles prières en commun partagée par les Éthiopiens du monde aujourd'hui.
Ici se termine Mémoire d'un continent. L'équipe du Mémoire vous retrouvera bientôt. Isabelle Godino, Thomas Ferrière et Likia Bokolo.